Allô, bonjour. Je viens d'entendre l'émission d'Anne Mermet sur cette famille kosovarde qui a été renvoyée de France. Je suis encore toute retournée. C'est inadmissible. Qu'est devenu le peuple français? J'ai honte de mon pays. C'est tout ce que j'ai à dire. Je voudrais qu'on puisse faire quelque chose pour cette famille. C'est indigne de la France de les renvoyer chez eux, de les exposer à la politique du Kosovo. Je voudrais qu'on fasse quelque chose, que le monde se soutienne et fasse quelque chose pour ce pays. C'est tout ce que je puis dire. Je vous remercie. Vous n'êtes pas obligé de passer mon appel, c'est simplement un cri. Je vous en prie. Au revoir.
18h46, ce jour, 6 décembre, je viens d'entendre sur France Info une information absolument désolante. J'ai honte de ces agissements. Une famille vient d'être rapatriée de France vers le Kosovo, comme ils n'arrivaient pas à les faire partir de Lyon ou de Paris. Le gouvernement a affrété un avion spécial pour les rapatrier à partir de Toulouse, voilà, avec 3 ou 4 enfants, je crois, dont 2 enfants qui vont à l'école régulièrement et qui ne parlent absolument pas du tout la langue de leur pays, qui ne parlent que le français. Voilà, je suis profondément touché, j'en ai les larmes aux yeux parce que je trouve ça honteux que des hommes puissent ramener des gens comme ça, une famille entière. Des larmes et profonde colère, voilà, c'est tout. C'est impensable qu'en 2006, nous soyons capables, à la veille de Noël, de faire quelque chose comme ça. Monsieur Sarkozy, j'aimerais peut-être que vos enfants vous les rapatrient n'importe où. Que sais-je? Enfin, je sais pas. J'aurais honte à votre place. J'aurais honte de me présenter à la présidence de la République. J'aurais honte. Honte. Mais vraiment honte. Merci. À très bientôt. Au revoir.
Ceci est une invitation à une cérémonie de parrainage républicain qui aura lieu le samedi 9 décembre à 11h à la salle des mariages de la mairie d'Achères dans le 78. À cette occasion, nous prendrons solennellement des familles de sans-papiers sous notre protection. À cette occasion, nous rentrerons en résistance contre les lois restrictives et inhumaines de M. Sarkozy. Le réseau d'éducation sans frontières RESF 78 ainsi que la mairie vous attend nombreux. Ils ont besoin de votre soutien et en plus, il y aura un petit buffet apéritif. Donc, je vous attends. Au revoir.
Oui, bonjour Daniel et tous les auditeurs en direct de Nantes, une manifestation des ostéopathes qui demande une formation sérieuse en 6 ans, que le gouvernement prenne des décrets intelligents plutôt que de mettre tous les partenaires de santé à dos. C'est mieux pour les patients et pour leurs torticolis. À bientôt.
En 86, le RPR avait un slogan. Le RPR à 10 ans, ça vaut bien une fête. Moi j'avais écrit ça le 4 décembre. Le RPR à 10 ans, ça vaut bien une tête. Une tête d'étudiant, les Gaulois sont des bêtes. Lire un membre du sac et dire après patatrac, le RPR a 10 ans, Malik, pas 20 ans, le RPR a 10 ans, âge mental assurément. Salut, Olivier, à Vincent dans la Drôme.
Hier, j'ai acheté comme toutes les semaines, mon canard enchaîné préféré et je tombe sur cet article très intéressant. Je n'étais pas du tout au courant de monsieur Serge Moati qui a invité, paraît-il, Le Pen il y a quelques temps dans son émission Riposte pendant 1h30, lui a laissé la parole, etc. Et donc, dans cet article du canard enchaîné, ils reprennent certains propos de Moati à propos de Le Pen, notamment dans le journal du dimanche. Donc, Moati dit de l'émission, c'était courtois, presque jovial, comme deux amis, tout à la joie de se retrouver après une menue brouille. Bon. Il enchaîne plus loin. Qu'il trouve Le Pen sympathique, marrant et cultivé. Il a quelque chose de ces grands bons hommes que l'histoire traverse et qui traversent l'histoire. C'est un peu le Mitterrand de son camp, parvenu à fédérer à une époque où la mode était à la gauche. Enfin, c'est un grand orateur et comme je suis sensible au verbe, c'est toujours Moati qui parle, pour avoir beaucoup travaillé avec Mitterrand, je peux me laisser embarquer. On termine ce florilège. par ses quelques propos, toujours Moati, Serge Moati, qui parle de Le Pen en disant « On aurait dû l'écouter. Il a été le premier à parler de la dissolution de l'identité française, de l'Europe qui prend le pas sur la France ou ne se prennent plus les décisions qui la concernent, de l'appauvrissement de la fragilité des petites classes moyennes d'ouvriers et d'employés qui massivement sont allés le rejoindre. » Voilà, je trouve que c'est édifiant quand on s'en prend à Dieudonné. À juste titre, je précise tout de suite, c'est tout à fait normal d'avoir dénoncé les propos et les actions de Dieudonné, mais qu'on passe sous silence totalement ces propos et de Serge Moati, heureusement quelqu'un a enchaîné, parce que j'étais absolument pas au courant de ça, je suis effaré.
Bonsoir les amis de Grenoble, pour se réunir au café La Bonheur demain soir à 18h30. Le thème, c'est baisse de droit, c'est voter. Pourquoi voter cette année? Vous êtes tous les bienvenus. 18h30, 65 avenue Alsace-Lorraine, à Grenoble. La bonne heure. À demain soir. Ou à ce soir, plutôt. C'est le jeudi. Ciao.
Bonjour, toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, et tous les AMG. C'est Sébastien de Thionville. J'appelle parce qu'hier soir, j'ai été à mon premier repère des AMG à Metz. Au Café de la Renaissance. Je voulais remercier tous les participants, Toff qui a bien organisé. Et j'étais très content parce que tout le monde a pu prendre la parole sans trop de problèmes. Tout le monde s'est exprimé. Il y avait un sujet, c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais peu importe. On a beaucoup échangé. Les points de vue ont été à droite et à gauche dans tous les sens. Et franchement, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Donc, merci encore à tous les participants. Et puis, j'espère qu'on continuera comme ça tous les mois, 6 de chaque mois. Voilà. Bon courage à tous, à bientôt.
Il paraît que dans l'émission d'aujourd'hui, tu reçois Politis et toute son équipe. Bon, déjà, un grand bravo et un grand merci à tous ceux qui ont participé à sauver Politis. Juste une remarque sur le site internet de Politis. On parle notamment du Venezuela et Manuel Rosales, qui était l'opposant à Chavez lors de l'élection, est qualifié de social-démocrate. Juste pour rappeler que lors du coup d'État du 11 et 12 avril 2002 à Caracas, ce Manuel Rosales a été l'un des rares politiques à venir signer son allégeance à Carmona, qui venait de se désigner comme chef d'État, c'est-à-dire qu'il a cautionné le coup d'État financé et organisé par l'oligarchie vénézuélienne et aidé par les États-Unis derrière. Donc c'est assez délicat et c'est assez chiant de voir marqué social-démocrate à côté de Manuel Rosales, qui en fin de compte un suppôt des États-Unis et un manipulateur pour remettre en place l'oligarchie vénézuélienne. Allez, ciao, viva, portez-vous bien.
Ah, c'est pointu, hein, il faut suivre. Hein. Ah oui, si vous avez loupé un chapitre, là, l'adversaire de Chavez, qualifié de social-démocrate, mais non. Ah, mais oui, mais c'est que cet auditeur, Eric, que vous reconnaissez, qui intervient assez souvent, touche sa bille. Il a voyagé là-bas en Amérique latine et il suit ça de très près. Merci pour les messages, ceux d'aujourd'hui, tout spécialement, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Ils sont très, très pointus. Vous prenez plus de temps pour ces messages. C'est un plaisir quotidien de vous écouter et de vous faire entendre. Alors aujourd'hui, on vient de le dire, on reçoit l'équipe de Politis. Pourquoi on reçoit l'équipe de Politis? Parce que vous connaissez un peu l'histoire, je pense. Un journal Politis, un journal d'opinion de gauche, était en train de couler, dans l'indifférence générale. Hein, on est dans l'indifférence générale aujourd'hui, tout est foutu, tout est pourri, on a tout essayé, baissons les bras et restons couchés. Et non, ça s'est pas passé comme ça. Les gens de Politis se sont remués, se sont secoués et ça a marché. Politis a été sauvé. A été sauvé en une expression sonnante et trébuchante, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à collecter presque 1 million d'euros. ce qui leur permet, et puis surtout aussi un soutien moral, plein d'encouragement à continuer, à repartir de plus belle, si bien qu'effectivement, ils repartent regonflés à bloc. Alors on va dire, oui, donc, oh, Politis, spécial copinage. Pas du tout spécial copinage. Il se trouve que Politis est quand même un journal indépendant. C'est un hebdo indépendant. Et ça, c'est très très important. Aujourd'hui, où vous le savez, ou vous le savez qu'à moitié, les médias en France sont entre les mains de 3-4 grands groupes industriels, Lagardère, Dassault, Bouygues, etc. Et qui sont des groupes, ne l'oublions pas, qui vivent en grande partie de commandes de l'État. Ils professent une idéologie souvent très très libérale dans la presse contrôlée par ces groupes, mais enfin, ces groupes vivent le plus souvent de commandes de l'État ou une grande partie de leur activité. Donc, pour obtenir des commandes de l'État, il faut être bien avec le gouvernement. Bon, et quand des échéances comme celle-ci s'approchent, eh bien, on pense qu'en échange d'une certaine bienveillance, d'un certain soutien à certains candidats, d'aider les Français à faire le bon choix, etc., etc., eh bien, on espère en retour, une certaine reconnaissance de l'élu, si toutefois on ne s'est pas trompé d'élu. Or, en 1995, souvenez-vous, une grande antenne comme TF1 avait un peu avait parié un petit peu sur le cheval Balladur. Or, c'est pas le cheval Balladur qui est arrivé, et cette année, il semblerait bien que on ait changé un petit peu le fusil d'épaule, ou du moins qu'on ait mis le fusil sur deux épaules, en se disant, bon ben, on va parier sur les deux, que ce soit l'un ou l'autre. Finalement, l'important, c'est que nos affaires continuent. Donc, c'est une explication rapide. Hein, il faudrait étayer tout ce que je dis là. Je suis bien d'accord. Mais enfin, ce qu'on peut tous constater, c'est qu'on est dans une situation de bipolarisation assez étouffante. On pourrait penser que la période dans laquelle on est, une période électorale, serait l'occasion de réflexion, de débat, de polémique, d'empoignade, mais tout azimut. Or là, il y a une réduction et un appauvrissement. Et là-dedans, eh ben, un petit journal comme Politis peut apporter un peu d'air, un peu de respiration dans cette bipolarisation étouffante. C'est une des raisons pour lesquelles on passe cette heure avec l'équipe de Politis jusqu'à 16h dans la base où j'y suis. Un mot aussi, effectivement, un mot à la mémoire de Malek Houssekine, en 1986, effectivement, ce jeune homme était assassiné par la police de Charles Pasqua, et je vous invite à vous souvenir et puis à savoir un peu, à documenter sur ce qui s'était passé à l'époque, ce jour-là. Encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base IGCO 01 56 40 37 37 et puis Politis.
Daniel, salut, c'est Franck. Écoute, on est en action avec les interlutants, les intermittents, les précaires du spectacle. On est en action donc à la chaîne 24, la chaîne de propagande du gouvernement, pour son inauguration, avec Monsieur Chirac qui est à l'intérieur des murs. Écoute, on est arrivé là, c'est incroyable, je te jure. Il y avait des gens qui nous ont tabassés, des gens qui nous ont gazés, mais ils prenaient plaisir à tabasser, ils prenaient plaisir à nous foutre des coups de latte. Je te jure, j'ai jamais vu ça, ils sont complètement malades. Le jour de l'anniversaire de la mort de Malek Houssekine, je te jure, j'ai jamais vu ça. Ils sont complètement fous. Mais malades. Écoute, je voulais te dire aussi, il y a quand même un motard, un mec, sur sa moto, qui a roulé sur un de nos potes, quoi. Faut quand même y aller, hein. Faut quand même le faire, quoi. C'est quand même costaud. Voilà, tu peux... je sais pas, je suis... Là on attend de rencontrer, il y a le président de la chaîne 24 qui va nous rencontrer. On attend de voir qu'on ait au moins une écoute, quoi, une audience. On voudrait être au moins présent à la conférence de presse aux Tuileries, là, la fameuse conférence de presse. Mais là, c'est vraiment, ils sont complètement cow-boys, ils sont complètement malades. Bon, allez, que la lutte continue.
Ami du Nord de Sèvres, bonjour. Vendredi 8 à 19h, on se retrouve à Clazé, chez Léa, au petit Clazé, à 19h, vendredi 8, et nous pourrons parler de l'eau. Salut.
Oui, bonjour Daniel et bonjour à toute l'équipe. Je suis Daniel Berdol de Nice. Je suis une vieille femme qui a connu la déportation et je ne peux donc pas me taxer ni de racisme ni de quoi que ce soit. J'ai toujours lutté depuis mon retour de déportation contre toutes ces formes possibles de racisme. Vos émissions m'intéressent toujours beaucoup et celle d'hier a attiré mon attention. Je voudrais vous apporter un témoignage qui est intéressant et qui est parfaitement incontestable. C'est le livre de Suzanne Nathan qui est édité aux Presses de la Cité et qui s'appelle « L'autre côté d'Israël ». Il est écrit par une femme juive qui a vécu en Angleterre et qui souhaitait rejoindre Israël pour vivre en toute quiétude sa judéité. Elle l'a fait dès que ses enfants ont eu terminé leurs études. Et ce livre, c'est tout ce témoignage de la vie et des conditions de vie également qui sont faites aux Palestiniens ou aux Arabes palestiniens qui sont restés vivre en Israël. Elle explique les raisons pour lesquelles ils sont restés en Israël et la vie qu'ils auraient faite. Et c'est extrêmement intéressant ce livre, évidemment. Aucune publicité a été faite autour. Merci et bon courage.
Chaque année, en ce début décembre, je suis surpris d'être étonné de n'entendre jamais une de vos modestes et géniales émissions consacrées au Téléthon. Il y a pourtant là matière à débats contradictoires, à controverses et réflexions des plus passionnantes, car tout ce show médiatico-scientifique associatif pourrait bien ressembler à une vaste escroquerie morale scientifique, à une cynique mise en spectacle du chagrin et de la pitié. Escroquerie, car il n'y a aujourd'hui, il n'y aura demain, pas plus qu'après-demain, aucune thérapie génétique pour soigner les malades atteints de ces maladies génétiques exceptionnelles. Instrumentalisé donc pour ce grand racket populaire caritatif. Escroquerie morale, car les fonds récoltés vont aller massivement dans la recherche tous azimuts du génie génétique, tant médical, fondamental, que dans l'agro-business. Les gens dits français donateurs, qui sont comme les Européens à 80% contre les OGM, n'ont certainement pas très bien compris de quoi ils retournent avec leur téléthon. À leur décharge, il n'y a pas grand monde pour poser le débat, même si le très populaire militant José Bové est bien silencieux sur le sujet. Car les menaces que font peser les recherches en biologie moléculaire, en génie génétique, ne sont pas que de l'ordre de la malbouffe. Il est urgent d'en prendre vite conscience. La dernière tentation eugéniste en Europe a fini sur des montagnes de cadavres il y a à peine un demi-siècle. De plus, ces recherches sont aussi préoccupantes sur un tas d'autres aspects, guère plus enthousiasmants, contrôle social des populations, à une idéologie scientiste des plus inquiétantes, le transhumanisme. Il y a là sujet à une belle série d'émissions qui, j'en suis sûr, passionnerait des AMG de là-bas si j'y suis.
Vous savez comment c'est comment de Nicifère, Politis?
Quelle mémoire. D'abord, ça a commencé en 1988 avec une équipe de journalistes. C'était autour de Bernard Langlois, qui est toujours présent parmi nous et qui écrit chaque semaine un bloc-notes. Et donc, l'origine du journal, c'est autour de lui, une équipe de journalistes. Puis on apprend peu à peu qu'il y a besoin d'autres métiers aussi autour de nous. Il faut vendre, il faut sans excès, sans renier notre âme. Mais enfin, il faut s'occuper de beaucoup d'autres choses que simplement faire des articles, ce qui est notre passion. Ça suffit pas, donc il faut aussi pas simplement savoir faire, mais faire savoir et faire connaître. Et on est un peu dans cette évolution, mais là on peut rassurer et les auditeurs de là-bas si j'y suis, et les lecteurs de Politis, ce sera sans outrance, fidèle disons à nos convictions et à nos principes.
Voilà, salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Denis Sifert, Thierry Brun, Michel Soudet, Xavier Frison, Christophe Kanchef, Politis.
Flight number 2, arriving from...
Alors ça y est, Politis est reparti. Denis Sifert.
Ben, on a vécu une sorte de miracle parce que, en fait, il y a un bon mois de cela, le 1er octobre, on n'en menait pas large. On pensait que ce journal qui avait 18 ans d'âge allait mourir dans la semaine. Et on a lancé un appel, et il s'est passé quelque chose de vraiment d'extraordinaire, qui a un sens bien au-delà du sort de Politis, puisque il y a pas loin de 8000 souscripteurs qui se sont mobilisés. Et on a prélevé en un mois, en fait, 980 000 euros, pas loin du million. On avait fixé le million comme objectif pour sauver le journal. En fait, on n'y croyait pas trop, à vrai dire, hein. On était quand même assez atterrés. Dès les premiers jours, il y a eu des dizaines, bientôt des centaines de milliers d'euros qui sont arrivés avec des mots, des lettres, des dessins, des choses très, très affectives en plus. Et les gens ont vraiment investi sur Politis, dans tous les sens du terme, comme un objectif politique, je crois, hein, pour faire vivre un journal d'une opinion un peu différente de ce qui domine dans les médias, quelque chose d'original, qui n'a pas d'équivalent. Et les gens nous ont dit, c'est notre ballon d'oxygène, vous n'avez pas le droit de nous faire ça, on pourrait plus supporter que Politis n'existe plus. Enfin, des choses extraordinaires, qui nous donnent une responsabilité et du devoir maintenant sans borne, hein, par rapport à...
Alors, qu'est-ce que vous allez faire, alors, de nouveau?
Alors, ce qu'on va faire
d'abord, vous allez continuer.
D'abord, on va continuer. C'est ça qu'on va faire de nouveau pour commencer. Et c'est ça que nous ont demandé les lecteurs. Parce que l'autre chose qui est très émouvante là-dedans, c'est que les gens nous ont pas dit, il faut que ça change, je vous aide, mais ceci. C'était pas un soutien conditionnel. C'était vraiment, il faut que ce journal continue et qu'il soit la voix de cette gauche anti-libérale, écologie, etc., qui finalement a pas beaucoup voix au chapitre dans les grands médias. Donc il n'y a pas de conditions. Cela dit, nous, on va quand même essayer de l'améliorer, ce sacré journal. Alors donc, il y aura au début janvier une maquette un peu rafraîchie. Pas de révolution, finalement, on est des réformistes dans cette affaire, hein. Mais par contre, on va quand même un petit peu révolutionner le site. Et surtout, on a tiré des leçons à la fois de notre aventure et on a fait le lien avec ce qui s'est passé pendant le référendum de mai 2005. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que cet instrument qu'on avait un petit peu négligé, nous, à Politis, et qui s'appelle Internet, est un formidable instrument de mobilisation.
Vous avez découvert qu'il y a un truc, c'est une souris.
Voilà.
Un machin qui est comme de la télé, mais c'est pas la télé.
Un objet qui correspond à la magie noire pour nous autres. Alors on sait quand même, alors je dis ça, mais j'ai à côté de moi Xavier Frison, pour qui c'est pas du tout de la magie et qui maîtrise nettement mieux que moi tout ça, et qui est l'un des artisans de la rénovation du site. Et surtout, on s'est rendu compte que c'était un lieu de dialogue permanent avec les lecteurs. Et donc ça, on va le faire vivre, on va le pérenniser. Et puis comme on entre un peu dans la campagne électorale et qu'on nous attend un peu au tournant, et ben ça va être vraiment le moment que Politis décolle.
Alors décolle, on va voir autour du numéro qui sort aujourd'hui, ce jeudi, ça sort le jeudi, Politis, hein.
Absolument, ça sort.
Et on va voir un petit peu justement par rapport à votre sensibilité politique, il faut l'appeler par son nom, c'est la gauche antilibérale. Là, vous êtes plutôt un peu mal parti en ce moment. Hein. D'ailleurs, vous avez essayé de nous décrire un petit peu ce que vous comprenez dans cet embrouille à mini. Mais d'abord, je voudrais qu'on prenne la couverture, enfin l'édito plutôt, qui est Ségolène. Et vous n'êtes pas gentil avec Ségolène. Hein.
Alors, je vais vous faire un aveu. C'est la première fois que ça m'arrive.
Il faut dire qu'elle nous a appris à une position française assez particulière, qui est de se positionner contre... le nucléaire civil et voilà. Iranien, entre autres.
Même George Bush n'ose pas demander des Iraniens, ni Ehud Olmert, le premier ministre israélien. Donc, elle fait plus fort qu'eux dans ce domaine. Mais je vais vous faire un aveu qui m'est jamais arrivé en, je sais pas, 15 ans d'éditorial de la Politis. C'est que j'avais un éditorial qui était tout près le lundi soir et qui, pour une fois, disait du bien de Ségolène. On n'est pas très, très ségoléniste. Mais je me disais, ce début de voyage au Proche-Orient, est plutôt pas mal. Elle a osé rencontrer le Hezbollah. Elle annonce qu'elle va rencontrer le Hamas. Elle prend ses responsabilités. Elle assume une autre politique un peu en rupture avec ce qui se fait généralement et singulièrement au Parti Socialiste. Et puis, le mardi matin, au moment de rendre cet éditorial, je me suis rendu compte que là, il y avait eu la journée en Israël qui était passée par là, et que comme elle avait dit aux uns ce que les uns voulaient entendre, elle avait dit aux autres ce que les autres voulaient entendre. Et alors ça donnait que le mur était nécessaire, que il vaudrait mieux qu'il se passe en bonne entente, puisque je crois que c'est une expression qu'elle a employée, qu'elle comprenait parfaitement les survols par l'aviation israélienne des positions de la finule au Liban, etc., etc., etc. C'est-à-dire quelque chose de tout à fait qui prenait à
cœur. Le mur aussi, elle pense que c'est pas mal.
Oui, le mur. Donc oui, elle a dit que c'était
à condition que ça se passe en bonne entente.
On imagine en effet les Palestiniens accepter en bonne entente qu'on leur retourne leurs terres cultivables, qu'on les exproprie, qu'on les détruise en maison, etc. Donc malheureusement, on va probablement constater qu'ils sont une fois de plus de mauvais coucheurs, hein, et qu'ils ne savent pas accepter la bonne entente avec les constructeurs du mur. Donc du coup, j'ai un peu refait mon éditorial, et j'ai été une fois de plus un peu méchant, c'était pas mon intention première, parce que j'ai eu le sentiment que finalement cette diplomatie là ségoléniste allait un peu à la dérive, c'est-à-dire que on disait
bon, c'est son premier voyage, elle essaie, ça peut-être s'arranger.
Oui, j'ai vu un commentaire de Chevènement là qui de façon très très élégante dit qu'il va falloir recadrer tout ça et que c'est un peu variable comme géométrie. Effectivement, on peut lui donner acte du caractère novice de sa démarche. Enfin, là, c'était très étrange. Et je me suis souvenu de Mitterrand. Mitterrand, quand il était allé là-bas, il avait fait le contraire. C'est-à-dire qu'il avait dit chacun...
C'était un malin.
Oui, mais enfin, il avait dit à chacun ce que chacun ne voulait pas entendre. Il avait dit... il avait critiqué le terrorisme devant les Palestiniens, et il avait, à la Knesset, et s'était prononcé pour un État palestinien. Mais faire l'inverse, ça n'a pas grand sens. We'll be right back.
Alors, dans le numéro de Politis, donc, qui paraît aujourd'hui, on est méchant avec Ségolène Royal.
On est juste.
Bien sûr. On est juste avec Ségolène Royal. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur votre camp, un peu que celui que vous, décrivez, c'est-à-dire le camp antilibéral. Est-ce que quelqu'un s'est aventuré à comprendre ce qui se passe? Michel Soudet.
On s'y aventure depuis longtemps, puisque dès le lancement de l'appel à une candidature unitaire, on a relayé cet appel, on a suivi toutes les réunions. Toutes les étapes jusqu'ici se sont bien passées, c'est-à-dire la définition d'une stratégie, d'une méthode, la définition d'un programme. À chaque fois, l'ensemble des médias disait « ça ne peut pas se faire, ça ne va pas se faire », tout le monde était sceptique, ça s'est fait. Là, pour le coup, pour la troisième et dernière étape, la désignation du candidat, effectivement, il y a un véritable problème. On bute sur la volonté, quelque part un peu hégémonique, du Parti communiste, d'imposer sa candidate. Ben, personnellement, j'ai pensé pendant...
Parce que la semaine dernière, c'était Mélenchon qui était en couverture de Politis. On dit, oh, et si c'était lui? Et puis là, ah, cette semaine, c'est Marie-Georges.
Oui, parce que c'est les différentes facettes un peu d'une même actualité.
Vous en prenez un par numéro, vous allez dépasser Noël, là.
Non, il s'agit pas d'en prendre un par numéro. Je crois que, on a ouvert le journal la semaine dernière à Jean-Luc Mélenchon, qui avait des choses à dire à la fois sur le Parti Socialiste et sur l'intérêt que que lui portait pour cette autre gauche, pour qu'elle s'entende, pour qu'elle se présente unie aux élections, et qu'il était prêt éventuellement à y apporter sa pierre. Maintenant, au moment, parce qu'ils vont se réunir ce week-end pour désigner le candidat, au moment où on arrive à ce moment crucial, on sent bien que les choses sont toujours bloquées. Et si elles se débloquent, ça sera dans les heures qui viennent. Toujours est-il que la clé est quand même, et c'est ce qu'on veut dire dans ce numéro, c'est que la clé, elle est entre les mains du Parti communiste. Et si l'ensemble des partenaires du Rassemblement critiquent la candidature de Marie-Georges Buffet, disent que c'est pas une véritable candidature de rassemblement, que c'est pas ce qu'ils veulent parce que ça donnera l'impression d'un rassemblement autour du Parti communiste, alors que eux veulent un rassemblement où le Parti communiste est une composante importante, mais une composante du rassemblement, ça les met pas sur un pied d'égalité. Là, c'est véritablement au Parti communiste de prendre sa décision parce que, en son sein aussi, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la volonté d'imposer Marie-Georges Buffet, qui le disent, qui écrivent à la direction, donc qui s'opposent quelque part et qui relaient véritablement ce débat à l'intérieur du Parti communiste. Donc les choses ne sont pas aussi simples. Il ne s'agit pas de dire c'est le Parti communiste, c'est la direction du Parti communiste peut-être, qui en fait ne sait pas comment résoudre le dilemme auquel elle est confrontée. Parce que quelle est finalement la clé de tout ça? C'est que la direction du PC a le choix entre deux mauvaises solutions. Soit elle fait éclater le Parti communiste et elle fait réussir le rassemblement antilibéral, soit elle préserve le Parti communiste tel qu'il est et elle fait éclater le rassemblement antilibéral.
Denis Siffert ? Parce qu'il y a un enjeu quand même historique, enfin, au-delà de cette péripétie importante qui va arriver ce week-end. Il y a tout un pan de l'opinion qui se manifeste depuis plusieurs années, et notamment j'évoquais tout à l'heure le référendum, qui est orphelin en politique. C'est-à-dire qu'il n'a plus de représentation, sauf une représentation morcelée. Et la question qui se pose, c'est de structurer cette représentation, c'est-à-dire de dépasser chacun des mouvements, d'aller au-delà et de donner une voix, en fait, à tout ce courant d'opinion. C'est ça qui est en jeu. Et ça, c'est vraiment une question historique, puisque à mesure que le Parti Socialiste, on en a déjà dit un petit peu de mal tout à l'heure, on va pas continuer, glisse plutôt un peu vers le libéralisme, un peu vers la droite, etc.
Un peu,
mais c'est une gentille litote, mais on a dit qu'on serait plus méchant donc avec Ségolène. Et évidemment, ça dégage un espace. Cet espace est de plus en plus vaste. Et dans cet espace, il y a pour l'instant une nébuleuse de petites organisations. Malheureusement, le PC fait maintenant partie de ces petites organisations. Les sondages, je crois, donnent 3%, 4% à Marie-Georges Buffet. Donc l'enjeu est énorme. C'est le dépassement de ça en structurant tout ce courant d'opinion pour lui permettre d'être à la hauteur de ce qu'il est réellement, de façon diffuse dans le paysage politique.
La titance s'en prend à tout saut. Tout le monde qui a moins mauvais note. Qui moins fait mal, qui moins fait bien. Moins qu'à passer pour un mal chien. Moi pas quoi, moins qu'à gêner hack. Ni personne, les moins qu'a fait chier, mais moins qu'on dit bon l'homme, mais des dieux pas à dans chichi, yo kadi ou mach, yo kadi ou chi, oui depuis ou pas à ton chichi. Yo ka di ou mach, yo ka di ou chi. Tout le monde ka mal et livé moins. Sauf Ababa, mais yo témoin. Joue la fête ka roule chel chè. Moi ka domi kon gros lâché. Ça qui l'épé marché ou pas. Ça pa kou bibi, moi pépa. Moi pa kouen, moi ka, j'en hak. Ni personne, les moins pas les temps, clairon, commandé, non. Mais des tours pas à dans chichi, yoka du mash, yoka du chi. Oui, des tours pas à dans chichi, yoka du mash, yoka du chi. Tout le monde galongé doit être 6 mois. Sauf mettre mon yon, mais yo témoin. Si volé, j'adhère à tout prix, parce que t'as fait qu'on est couri. Moins qu'à voyer en pas traîne, mais t'as fait qu'à y planter dîne. Moins pas quoi, moins qu'à, j'en ai hack, ni personne. Les moins qui te volent, les chaillés, chaud à bombe. Mais des pieux pas à dans chichi, yoka du mâche, yoka du chi. Oui, des pieux pas à dans chichi, yoka du mâche, yoka du chi. Tout le monde qu'a couru derrière moi. Sauf Jean Dibois, mais yo témoin. Moins pas besoin, ça fait séance. Pour ça, moins pas ni en seule chance. Les yo qui joignent en code Mao, yo qui prennent moins coûte et bio. Moins pas quoi, moins qu'à, je n'ai hack, ni personne. Les chimènes, moins pas qu'à, mener moins en rond. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Alors, on continue avec le numéro de Politis qui paraît aujourd'hui après la résurrection encourageante de Politis. On va parler du dossier avec Thierry Brun. Et c'est un truc assez énorme. C'est-à-dire que ce qu'on appelait l'économie financière. Je me souviens, au début des années 90, on a commencé des émissions mensuelles avec le monde diplomatique, un peu comme on fait une avec vous aujourd'hui. Et je me souviens de cette expression... l'économie financiarisée, je me souviens de ça, c'est au début des années 90. Ça voulait dire des suppressions d'emplois, des plans sociaux et des destructions d'entreprises. Alors là, cette économie financiarisée, là, elle prend un nouveau tour et qui se résume à 3 lettres, c'est LBO.
En fait, on voit un autre aspect justement de cette financiarisation de l'économie et c'est sans doute grâce à un collectif d'ailleurs que l'on peut désormais analyser ces aspects de cette financiarisation de l'économie. C'est qu'au travers de ces LBO, c'est-à-dire on appelle ça des termes techniques, leverage buyout, on peut traduire ça de manière assez simple comme le rachat d'entreprise par un endettement ou à crédit et dans un but spéculatif. C'est une actualité économique très très forte en ce moment puisque ce phénomène spéculatif, on en entend parler tous les jours de ces rachats d'entreprises. Il y a ces 2 dernières années, il y a quand même dans des opérations dites de LBO, il y a à peu près 2000 entreprises françaises qui ont été rachetées de cette manière-là, qui ont fait l'objet donc d'une spéculation et qui ont été revendues en utilisant donc ce système d'endettement. C'est-à-dire d'aller chercher donc des capitaux quand on n'en a pas suffisamment pour acheter des entreprises qui sont suffisamment intéressantes pour les rentabiliser très très vite et les revendre et ensuite en tirer le maximum de plus-value. Alors quand on dit plus-value, on est de l'ordre de 40-50%, c'est faramineux. Les montants ces 6 derniers mois qui ont été investis dans la dette pour racheter et revendre des entreprises, ce sont des montants colossaux. On dépasse les 20 milliards d'euros. Les entreprises connues sont concernées. On parle en ce moment de TDF dans l'audiovisuel. Dans les prochains mois, les spécialistes évoquent déjà le cas de la Fnac. Il y a le groupe Vivart qui a fait l'objet d'un LBO. Et puis un autre exemple connu, c'est les surgelés Picard qui ont été rachetés puis revendus 2-3 fois.
Alors ça se traduit comment ? Ça entraîne des risques pour les entreprises, pour les salariés, pour...
Alors la conséquence de ce phénomène spéculatif, c'est effectivement, c'est de tirer le maximum de profit de ces entreprises. Alors il n'y a pas 36 moyens d'y arriver. on endette d'une certaine manière l'entreprise, c'est-à-dire les actionnaires deviennent des créanciers, et donc dans cette entreprise, ils ont un moyen de pression très important pour en tirer le maximum de bénéfices, donc on arrive à rationaliser, entre guillemets, c'est ce qu'on dit en termes techniques, rationaliser les coûts, donc évidemment, soit on délocalise, soit on ferme des pans qui ne sont plus suffisamment rentables, donc ça se traduit par des suppressions d'emplois considérables. L'ensemble là sur de ces derniers mois, alors en France, en plus c'est un phénomène un peu particulier, c'est que la France est le premier pays concerné par ce système de d'opérations dites de LBO. Ça concerne plus de 500 000 salariés quand même, hein, et des milliers de suppressions d'emplois. Sans exagérer, on est vraiment dans des chiffres et dans des proportions qu'on n'imagine pas.
C'est-à-dire
cette financiarisation de la mondialisation.
C'est-à-dire en 2 ans, ça s'est traduit par des licenciements.
Alors en 2 ans, oui, ça s'est traduit par des licenciements.
Combien, on a une idée ?
On n'a pas une idée précise, je peux pas donner comme ça une indication, mais par exemple, dans le cas de Vivart, il y a eu 400-500 licenciements suite à ces opérations de LBO, c'est-à-dire rachat puis revente du groupe, quoi. Dans d'autres secteurs, mais enfin, c'est par centaines et par milliers quand même.
Alors vous avez aussi un papier sur les actionnaires, c'est que en fait, les actionnaires, c'est-à-dire ceux qui sont censés percevoir les avantages de ces opérations, ça peut être aussi des salariés.
Oui, exactement.
Ça, le piège. C'est pas forcément le capitaliste avec son chapeau birflé, le salaud avec le gros ventre et la chaîne de montre en or.
Oui, alors,
ça peut être au fond vous et moi, quoi. Vous pouvez couler votre propre boîte en devenant actionnaire.
Oui, c'est une petite.
Et perdre votre propre emploi en devenant actionnaire.
Oui. Oui, alors ça, c'est effectivement, on a fait un papier sur un projet de loi qui a été adopté sur la participation des salariés au ce qu'on appelle l'actionnariat salarié, et effectivement, on y a un article de ce projet de loi précise que, aux côtés des fonds d'investissement qui sont les principaux acteurs de ces opérations financières, des fonds d'investissement ou des fonds spéculatifs qu'on appelle les hedge funds, on peut y trouver également des salariés actionnaires. L'objectif de ce projet de loi, justement, c'est d'élargir cet actionnariat et donc de l'étendre aux salariés, y compris pour les petites et moyennes entreprises. Bon, on comprend bien que les moyens de pression des fonds d'investissement sont tels que, face à cela, les actionnaires salariés sont complètement laminés, et faire participer les actionnaires salariés à leur propre destruction, c'est aussi une opération, je pense, que on est amené à faire comprendre dans le cadre de ce dossier.
Eu suis fou de toi depuis toujours. L'amour, c'est la même moule chaque fois qui chauffe que grippe. Y'a qui chauffe, pour zélim, malgré moi, rani, rani. Y'a qui chauffe, pour zélim, rani, 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 béli. Inch'Allah, on verra.
bientôt et qui vivra, vivra.
Bon, continuez avec Politiste, il paraît aujourd'hui, avec Christophe Kantchev. Alors vous, vous occupez plutôt de la culture, des pages culture?
Oui. Et cette semaine, il y a une critique d'un roman hongrois qui s'appelle La métamorphose d'un mariage, d'un grand écrivain hongrois qui est mort maintenant, qui s'appelle Sándor Márai. Et l'article est fait par Ingrid Merx. En fait, je tenais moins à parler de l'article en particulier que de la critique que de la situation de la critique dans la presse et la manière dont nous la considérons dans le journal. Et on voit bien que la critique, la plupart du temps, est dans une mauvaise situation. En particulier, elle reprend de plus en plus le discours promotionnel et le discours de la communication. Et on a du mal de plus en plus à faire la distinction entre la publicité, d'ailleurs les encarts publicitaires reprennent les petites phrases des journalistes, et la critique elle-même qui est généralement au surplus une critique impressionniste, c'est-à-dire c'est j'aime pas, une critique de consommation culturelle à vrai dire, et si on peut encore appeler critique une telle de tels articles à vrai dire. Étant donné aussi l'économie des journaux qui doivent participer à l'événement, c'est extrêmement compliqué de se placer en dehors de du système promotionnel. Et c'est ce qu'on essaie de faire nous à Politis, en particulier parce que nous sommes largement en dehors de l'injonction commerciale, de l'injonction promotionnelle, mais aussi parce que nous avons une volonté, enfin une exigence, disons, j'ose dire intellectuelle. C'est-à-dire que une critique, la première exigence, c'est qu'elle doit être argumentée. Et donc participer au débat critique autour d'une œuvre, ce qui lui permet justement d'aller contre le discours promotionnel et de la loi du grand nombre, on va dire. Et donc participer d'une certaine façon à un débat, donc créer un espace public autour d'une œuvre, un espace où les arguments se contredisent, en tout cas se confrontent, et donc on est là dans une véritable intersubjectivité, donc une parole entre citoyens autour d'une œuvre, et non pas de consommateurs qui obéit à un discours prémâché. Voilà. Et donc
alors, ou bien c'est un combat d'arrière-garde, ou bien c'est un combat d'avant-garde. Mais c'est pas aujourd'hui, là. Vous n'êtes pas en train de parler d'aujourd'hui, où on est dans la consommation culturelle à fond la caisse, et où la culture n'est plus un enjeu.
Oui, c'est amusant que vous disiez ça, parce que d'une certaine façon, c'est la vocation du journal, finalement. Est-ce que c'est un journal d'arrière-garde ou d'avant-garde? On pourrait se poser la question aussi à propos du capitalisme dans les mêmes termes. Est-ce que c'est d'avant-garde de mettre en cause le capitaliste, ou c'est d'avant-garde? C'est une bonne question, mais il me semble que il y a encore un enjeu autour de...
Vous pouvez pas vous dire tous les matins en arrivant ici, bonjour, nous allons faire un journal d'arrière-garde.
Je crois qu'il y a un véritable combat politique à mener encore sur la culture et sur les œuvres, qui n'est pas du tout, on n'est pas du tout battu d'avance. Bien sûr, le rapport de force n'est pas tout à fait à notre avantage, mais je suis pas certain non plus que pour ce qui est de la lutte contre la mondialisation soit vraiment en position de force. Je suis pas, enfin, je veux dire, on peut aussi penser que tout est fini et que nous sommes finalement des consommateurs à vocation à être effectivement avachis ou abrutis et que on rend les armes, mais je suis pas tout à fait sûr. Moi, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de soit d'intellectuels, soit de citoyens qui réagissent contre le discours qui leur est asséné.
Denis Sifer.
Oui, ce que dit Christophe Kantchev, je crois, est très important. Il a raison de faire le lien. C'est pas simplement des enjeux culturels, ou alors au sens le plus large. Et moi, je voudrais même faire le lien avec notre souscription et ce qu'on disait.
C'est ce que j'étais en train de me dire, parce que parlant comme vous le faites, là, il y a quand même, oui. On se dit, c'est quand même formidable que autant de lecteurs, et pas seulement des lecteurs, oui, se soient mobilisés et veuillent ce canard.
C'est-à-dire que, effectivement, je pense qu'on a derrière nous, notre pain noir, de toute façon, c'est, on l'a bien dit, les années 80, 90, c'était les années paillettes, fric, etc., avec une...
Apolitiste, non, vous voulez dans le monde.
Apolitiste moins qu'ailleurs, c'était beaucoup à la source de nos ennuis, mais d'une frivolité, en fait, intellectuelle et morale. Et je pense que maintenant, les gens, beaucoup de gens ont fait le tour de ça, et il y a un retour à des choses en effet plus peut-être plus graves, pas forcément toujours très ludiques, mais ce qu'évoquait tout à l'heure Kant Chef. Et c'est vrai en tout, c'est vrai en politique, c'est vrai en économie avec les prises de conscience.
C'est pas tellement vrai en économie. On vient de nous décrire des choses sur le plan économique qui sont absolument désespérantes.
Si on parle des idées dominantes, pour dire les choses très franchement, Politis, c'est un journal minoritaire, je dirais pas marginal, mais minoritaire dans l'opinion. Mais cette minorité, peut-être n'est plus marginale, justement, et elle commence à reprendre conscience d'elle-même et à vouloir de nouveau s'exprimer. Il y a une prise de conscience, il y a une volonté d'exister, et la volonté qu'un journal existe pour les représenter, c'est aussi l'existence des collectifs unitaires, c'est une certaine conception de l'esthétique dans l'art et dans la culture, et c'est aussi notre problème dans la presse.
I got a black magic woman. I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. I got a black magic woman. She trying to make devil out of me. Turn your back on me, baby. Turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your trick. Don't turn your back on me, baby. You might just pick up my magic stick.
Merci à tous, merci à la rédaction de l'hebdomadaire Politis, Denis Cifer, Michel Soudet, Thierry Brun, Christophe Kantchef et Xavier Frison, à lire donc le numéro de Politis de cette semaine et des semaines à venir bien évidemment. avoir le site sur les fonds d'investissement, celui du collectif anti-LBO. Et pour ceux qui ne sont pas loin de Roissy, ça c'est un message personnel de Pascal Le Pascalillo à tous les auditeurs de la place où j'y suis. Ceux qui sont pas loin de Roissy, il y a une mobilisation qui est prévue pour empêcher l'expulsion de Daïm Sidi B, un jeune malien de 28 ans à Roissy, terminal C. Le départ de l'avion est à 16h40. Ces informations, comme d'autres, sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Et vous pouvez, ou vous pouvez écouter, réécouter cette émission. Et puis vous pouvez écouter, réécouter cette émission sur là-bas.org, là-bas.org, ainsi que beaucoup d'archives de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Claudine Lapersonne et Mathias Alléon. C'est Yann Chouquet et Coyenne Guyenne qui ont réalisé cette émission, assistée de Pascal Pascariello et Christophe Imbert qui vous attend près de son téléphone jour et nuit. Il est là, il regarde le répondeur, il espère que vous allez lui laisser un petit message d'ici à demain au 01 56 40 37 37.